Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
Deux heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. Et pourquoi pas de légèreté, comme nous l'avons régulièrement avec Julien. Et puis l'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous et à la une. Ce drame près de Saint-Jean-de-Luz, trois personnes sont mortes percutées par un TER. Une quatrième est grièvement blessée. Emmanuel Macron présente son plan pour la France de 2030. 30 milliards d'euros pour redevenir, dit-il, une nation d'innovation. Et puis on parlera de cette révolution chez Lego. Fini, figurez-vous, les jouets pour filles et pour garçons.
Et à 12h42, débat, le nucléaire d'abord, stop ou encore, ce sera l'un des volets de Emmanuel Macron qu'il présente ce matin. Et puis ce sera peut-être un des débats de la présidentielle. Et à 12h50, si on revenait sur le non-cumul des mandats, un amendement est débattu aujourd'hui au Sénat.
La question du jour sur RTL.fr, énergie, justement, faut-il tout miser sur le nucléaire? Eh bien, vous dites oui, massivement, à 68%, non, à 27%. Notre météo du jour, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour, Peggy.
Bonjour, Amandine, bonjour à tous.
Un temps calme et sec.
Ah oui, ce sont vraiment des conditions anticycloniques, hein. Un temps souvent sec, pas forcément ensoleillé puisque c'est bien couvert sur le nord-est. Allez, peut-être trois gouttes possibles le long des frontières du nord, mais pas grand-chose. Et puis les nuages restent nombreux sur le centre-est. Mais en allant vers l'ouest et le sud, là on a de belles éclaircies, c'est même bien dégagé près de la Méditerranée, mais avec un fort mistral. Tout ça sous des températures qui sont tout juste de saison, de 14 à 18 au nord et de 17 à 23 au sud.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer, direction donc Cibourg, près de Saint-Jean-de-Luz. C'est là qu'un TER a fauché tôt ce matin quatre personnes. Trois d'entre elles sont mortes sur le coup. Philippe Demaria, bonjour, vous êtes sur place.
Bonjour.
Pour RTL.
Oui, le TER est encore arrêté en pleine voie dans un virage. Un peu avant, des draps blancs sont posés sur les dépouilles des victimes. Des enquêteurs de la PJ en charge de l'affaire déploient un drone pour avoir une vue d'ensemble de la scène du drame. Ce matin, vers 5h30, le TER va entrer en gare de Saint-Jean-de-Luz en direction du nord de Bordeaux. C'est sa destination finale. Il heurte de plein fouet quatre personnes. De sources judiciaires nous dit que ces personnes étaient couchées sur les voies. Trois d'entre elles décèdent. Une est grièvement blessée. Deux victimes sont d'origine algérienne. Pour les deux autres, ce n'est pas encore déterminé. Il s'agirait de migrants dans le quartier de Cibourg, traversés par la voie ferrée. La consternation l'emporte.
C'est terrible, ça.
Ben écoutez, je trouve ça épouvantable. Je trouve que c'est d'une tristesse infinie. Il faut savoir ce qui s'est passé. Peut-être suivait-il la voie pour aller jusqu'à Bayonne. Mais peut-être, je ne sais pas du tout. Donc c'est difficile de se prononcer, mais c'est vraiment finalement une image de la misère humaine. Donc c'est très triste.
Le flux de migrants ne tarit pas ici au Pays Basque. Le 8 août dernier, un jeune Guinéen de 18 ans s'était retrouvé noyé dans la Bidassoa, le fleuve frontière entre la France et l'Espagne. Et
Philippe Demaria en direct de Cibourg pour RTL.
Emmanuel Macron a présenté ce matin son plan industriel pour la rentrée.
Pour la prochaine décennie, France 2030, c'est son nom.
Il nous faut avoir un pays qui produise davantage. Si on ne réindustrialise pas le pays, il n'est pas vrai qu'on pourra redevenir une grande nation d'innovation et même de recherche.
Voilà pour l'objectif, pour le cap. Bonjour Martial You.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'Élysée où Emmanuel Macron a présenté donc ce plan. Ça passe par quoi concrètement? Comment on fait?
Alors, premier élément marquant et qui va faire débat, Emmanuel Macron relance la filière nucléaire et en fait le point central en fait de sa stratégie. 1 milliard seront investis très vite pour lancer un prototype de petit réacteur qui devra être opérationnel pour 2030. Il veut s'appuyer sur les 200 000 Français qui travaillent dans la filière nucléaire aujourd'hui. Le nucléaire va permettre aussi de développer ensuite l'hydrogène vert qui doit, lui, lancer la production de véhicules et d'avions n'émettant pas de CO2. Là, ce sont deux usines qui doivent voir le jour d'ici 2030. Et puis derrière, on va investir 4 milliards pour développer l'avion propre et sortir 2 millions de voitures électriques de nos usines. Dans le domaine médical, Emmanuel Macron veut aussi sortir 20 biomédicaments d'ici 2030 contre le cancer ou les maladies de l'âge et puis repartir à la conquête de l'espace. Tous les projets ne sont pas identifiés ce midi, ni financés bien sûr, mais Emmanuel Macron essaie de développer l'esprit start-up à l'américaine, à savoir la culture de l'échec.
Il y aura beaucoup d'échecs derrière les 10 objectifs que j'ai donnés. Et il faut qu'il y ait beaucoup d'échecs. La seule chose qui est nécessaire, c'est que à chaque fois qu'il y a un échec, il puisse être le plus rapide et le moins coûteux possible. Sortons d'une habitude prise qui consiste à dire « l'échec est un drame, pour pouvoir rebondir.
Les 3 à 4 premiers milliards seront débloqués dès le mois de janvier prochain.
Martial Youn, direct de l'Elysée pour RTL.
Il faut encourager la culture de l'échec, c'est intéressant. Et Martial le disait, sur les 30 milliards annoncés, un sera consacré aux petits réacteurs nucléaires. Est-ce qu'on a raison d'investir dans ce secteur? Eh bien, on en débattra à 12h40 avec Virginie Garin.
Xavier Bertrand participera finalement bien au congrès des Républicains. Il l'a annoncé hier soir sur TF1.
Ce congrès, c'est la seule façon d'avoir le plus vite possible un seul candidat de la droite et du centre.
Bonjour Thomas Després.
Bonjour.
Un seul candidat, la seule façon, dit Xavier Bertrand. Il n'avait pourtant pas beaucoup d'autres choix.
Non, c'était la seule option viable, commente ce matin un proche de Xavier Bertrand. Et ce, pour trois raisons. D'abord, l'argent. Dans une campagne, c'est le nerf de la guerre. Et même si dans l'équipe du président des Hauts-de-France, on réfute cet argument, le parti Les Républicains dispose tout de même d'un trésor. Une enveloppe entre 8 et 10 millions d'euros pour la campagne. Et s'il avait fait la course seul, Xavier Bertrand aurait dû tirer une croix sur ce pactole. Deuxième argument, qui a contribué à sa décision, les sondages, et en particulier le dernier qui date d'hier matin. Pour la première fois, une enquête IFOP le place au second tour avec 16% à égalité avec Marine Le Pen. Un argument qu'il espère voir peser dans la balance des adhérents LR avec ce message. Voyez, je suis le mieux placé pour l'emporter ensuite devant Michel Barnier ou Valérie Pécresse. Et puis, dernier argument un peu plus personnel pour Xavier Bertrand, ne pas apparaître comme le diviseur, celui qui fera éclater le parti. Car dans son entourage depuis plusieurs jours, les parlementaires ont acquis une conviction. S'il y a deux candidats à droite, aucun ne dépassera les 10%. Et là, ce sera la défaite assurée.
Merci beaucoup Thomas. Thomas Després du service politique d'RTL. Et à l'instant, Valérie Pécresse se félicite justement. C'est une très bonne nouvelle, dit-elle. Il ne faut jamais avoir peur de la démocratie en politique. Fin de citation. C'est cet après-midi que Gérald Darmanin recevra, lui, le président de la conférence des évêques, Éric Moulin-Beaufort, prié de s'expliquer sur ses propos sur le secret de la confession. Au même moment où presque Alain Griset sera devant le tribunal correctionnel de Paris, le ministre en charge des PME comparaît pour omission dans sa déclaration de patrimoine. C'est la première fois qu'un ministre en exercice est jugé par le tribunal, par un tribunal correctionnel.
La fusion entre la Société Générale et le Crédit du Nord.
Elle va entraîner la suppression de 3 700 postes d'ici à 2025. Aucun départ contraint sur la direction. Les syndicats sont toutefois très très inquiets. Écoutez, Khalid El Adaoui, c'est le secrétaire général CFDT de la Société Générale.
C'est un scandale. C'est un scandale parce que, si vous voulez, ça fait maintenant 10 ans à la Société Générale que chaque année, en fait, on nous annonce des restructurations, des transformations, et en fin de compte, à chaque fois, ce sont des suppressions de postes. Moi, j'ai le téléphone qui n'arrête pas de sonner. Il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup d'inquiétude. Ça fait un an que nos collègues, que ce soit côté Société Générale ou Crédit du Nord, sont en stress parce qu'en fait, tout le monde se pose la même question. Est-ce que je vais perdre mon poste? Et donc là, 3700 postes de supprimés, pour nous, c'est un scandale.
Des propos recueillis pour RTL par Arnaud Touche. Le bras de fer autour de la pêche se durcit. 11 pays, dont la France, ont signé une déclaration commune pour pousser le Royaume-Uni à accorder plus de licences aux pêcheurs européens. Vincent Serrano, vous êtes à Jersey pour RTL. Bonjour.
Bonjour.
Les pêcheurs là-bas ne comprennent pas vraiment le problème.
Oui, et c'est même avec le sourire qu'Antoine dépose son panier rempli de homards sur le quai.
Oh, 21 aujourd'hui.
Ça fait 45 ans qu'il pêche ici. La première chose qu'il me dit, c'est la France demande plus de 400 licences, mais d'où sortent ces bateaux?
Les pêcheurs qui viennent de Granville, Carteret et Port-Bail devraient avoir leur licence. Mais ceux qui viennent du Nord et du Sud, même les pêcheurs français, doivent se demander d'où ils sortent.
French across the way want that either.
Et la menace de la France de réduire l'électricité, ça vous inquiète?
Oh, I don't think it'll happen. Electrical...
Ah, je pense pas que ça va arriver. Ils ont signé des contrats avec nous. Après, si ça arrive, on fait notre propre électricité. Qu'ils n'oublient pas qu'il y a beaucoup d'argent ici, de banques.
Too many banks. Non, je ne suis pas peur. Je crois que ça va après.
Et puis vient vers lui Ken, c'est un des restaurateurs du village qui vient lui acheter quelques prises.
Vous y allez un peu fort avec vos menaces. Pas la peine d'aller aussi loin. Si on part dans cette voie, on est têtu, vous savez, mais je pense que vous l'êtes aussi.
Et les deux hommes repartent ensemble pour aller déjeuner. Vous l'aurez compris, il y a du homard ce midi sur la table.
Vincent Serrano à Jersey pour RTL. Du tennis, et ça n'est arrivé qu'une fois en 20 ans. Roger Federer va quitter le top 10 du classement ATP. À partir de lundi, le Suisse ne sera plus que 11e, conséquence de sa blessure au genou. Il n'a que très peu joué ces derniers mois, mais pour l'instant, même à 40 ans, pas question de parler de retraite. On entendra en revanche peut-être bientôt ce que dit l'arbitre pendant un match de foot. Ça va vous intéresser, ça, Pascal. Le principal syndicat de la profession veut expérimenter le micro sur le terrain, comme ça existe au rugby. Les arbitres de Ligue 1 sont pour, Jean-Michel Rastol.
Oui, un récent sondage montre que les arbitres de Ligue 1 sont favorables dans l'ensemble. Il y a eu des avis contre un arbitrage sonorisé. Jérôme Brizard, directeur de jeu expérimenté, n'y voit que des avantages.
On souhaiterait tous avoir un micro pour que tout le monde nous entende. Finalement, on n'a rien à cacher. Et je pense qu'au contraire, le spectacle en serait que meilleur de pouvoir comprendre au mieux ce qui se passe. La transparence, c'est important. En tout cas, l'exemple du rugby est un élément très concret et je pense très positif à ce niveau-là. Donc, pourquoi pas un jour avoir cette évolution.
Oui, s'il y a bien un thème sur lequel le rugby est en avance, c'est celui-là, une meilleure compréhension du jeu pour le public et la captation d'échanges sur le terrain, parfois savoureux.
Monsieur Amora.
Bonjour, pas ça. Okay. Ça marche ?
C'est joli, mais malheureusement, elle est devant.
Vous parlez correctement, d'accord ? La prochaine fois, vous allez vous doucher. Ok ? Allez, on joue.
Tu veux qu'on vérifie la passe ? Oui, on va la vérifier, allez, va. Comme ça, j'aurais servi à quelque chose au moins. Allez.
Voilà, réflexion, vous l'avez compris, de l'arbitre vidéo dans ce cas. Jean-Michel Aulas, l'influent président de l'OL, les syndicats de joueurs et d'arbitres planchent cet après-midi au siège de la Ligue sur cette innovation possible, qui n'est pas la priorité, précisons-le, de la FIFA, l'organe suprême du football international.
Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Et puis, autre révolution dans le monde du jouet. Cette fois, Lego va retirer la mention pour fille ou pour garçon sur ses produits. Nerissa et Mani, comment ça va se passer ? Qu'est-ce que ça va changer ?
Eh bien, par exemple, si vous achetez une boîte de briques pour construire un bulldozer, il n'y aura plus la mention jouet pour garçon. Et pour un château de princesse, fini l'inscription jouet pour fille. Sur le site internet de Lego, les produits ne seront plus classés par sexe, mais par thème. Et enfin, sur le catalogue de Noël, il n'y aura plus de catégories filles et garçons. Des décisions prises par la marque après avoir réalisé une étude sur 7000 parents et enfants âgés de 6 à 14 ans. On y apprend que de nombreux enfants n'osent toujours pas jouer avec certaines figurines genrées. 7 garçons sur 10 ont même peur qu'on se moque d'eux s'ils jouent avec des jouets de filles. Et c'est ce que pensent aussi leurs parents. Avec ces nouveaux changements, Lego veut donc mettre fin aux stéréotypes de genre. Et ce n'est pas la première fois que la marque se veut plus inclusive, puisqu'en juin dernier, elle lançait un kit LGBT, des centaines de briques et de figurines aux couleurs de l'arc-en-ciel.
Nerissa et Mani, merci à vous pour ces explications.
Deux débats à venir, le nucléaire stop ou encore, et à 12h50, si on revenait sur le non-cumul des mandats.
Les Legos auraient pu être un sujet aussi.
Mais c'est un formidable sujet, les Legos. Évidemment que c'est un formidable sujet. Mais dans les auditeurs, on en parlera tout à l'heure. A tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Pour produire de l'énergie, en particulier de l'électricité, nous avons une chance, c'est notre modèle historique. Le parc installé de nucléaire. Nucléaire, parc hydro et notre base installée. Nous devons réinvestir pour être à la pointe de l'innovation de rupture dans ce secteur.
C'est l'un des volets du plan France 2030 présenté ce matin par Emmanuel Macron et ce sera sans doute l'un des débats de la présidentielle, la question du nucléaire. Faut-il ou non continuer à investir dans la filière ? C'est donc le premier débat d'RTL Midi. Virginie Garin, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous nous avez rejoint, vous connaissez parfaitement bien sur toutes ces questions, chef du service qualité de la vie ici à RTL. Pour vous Pascal, sur cette question-là, il n'y a pas de débat.
C'est un sujet qui a le don de m'agacer parce que le nucléaire est écologique. Il n'y a pas de rejet à effet de gaz dans l'atmosphère, c'est de la vapeur. Le nucléaire est moins cher, au moins en amont. Le nucléaire est sécure. Il n'y a aucun incident majeur en France depuis 1956 et la construction du premier réacteur nucléaire. Dans le monde, mis à part Tchernobyl, centrale mal entretenue dans une Union soviétique vieillissante, aucune catastrophe n'est à déclarer. Je rappelle que c'est un tsunami qui a percuté Fukushima. Le nucléaire ne saurait être tenu pour responsable. J'ajoute que le nucléaire est une excellence française, qu'il n'existe aucune alternative crédible, que les subventions de l'éolien, du solaire ou des mines à charbon coûtent des sommes folles et que le nucléaire, c'est... Alors je pensais que c'était 4 à 600 000 emplois, visiblement ça serait que 200 000. Eh bien malgré tout ça, pour des raisons purement idéologiques, pour faire plaisir à quelques écolos, ce débat perdure et illustre le masochisme français. Pour une fois qu'on est au top, en même temps qu'il empoisonne la vie politique, alors que le débat, il ne devrait même pas en avoir. Alors passons au 100% nucléaire. Bon, c'est un peu radical.
C'est un peu radical et on va reprendre point par point avec vous, Virginie. Plus écolo,
Alors oui,
c'est vrai, on prend l'argument du climat, effectivement, une centrale nucléaire n'émet pas beaucoup ou très peu de carbone. Du coup, grâce à nos centrales en France, notre production électrique émet 10 fois moins de CO2 qu'en Allemagne, vous avez raison Pascal. Alors après le nucléaire, ce sont des déchets quand même extrêmement dangereux qu'on lègue à nos enfants pendant des centaines de milliers d'années. Un flux de déchets ultime, vous passez à 1 mètre en quelques secondes, vous êtes mort. Donc il faut les surveiller et c'est une question éthique, c'est... Bon, ça peut se débattre. Après, les risques sur la santé, il y a peu de morts à Fukushima. Sur les cancers, on verra par la suite. Le risque
du Fukushima, c'est pas un accident nucléaire.
C'est quand même une centrale nucléaire.
Non. Fukushima, c'est un accident. Mais non. Enfin, on peut pas dire que Fukushima soit un accident nucléaire.
On a construit Fukushima sur un tsunami. Elle a été protégée. Il y avait des rapports qui disaient qu'il fallait, par exemple, construire une digue pour éviter un risque de tsunami.
Mais ça, c'est autre chose.
Les Japonais
mais on peut
ont
pas
fermé
mettre,
les yeux.
C'est pas un accident nucléaire. Ah ben non. Alors, si on me dit que Fukushima est un accident nucléaire, effectivement,
c'est un tsunami qui déclenche une catastrophe.
C'est une centrale nucléaire qui n'est pas suffisamment protégée. Le risque n'avait pas suffisamment été prévu.
Mais ça
peut arriver.
C'est autre chose. Ah ben, effectivement, si on construit une centrale nucléaire sur une zone sismique, effectivement, c'est pas malin.
Mais là, aujourd'hui, il y a une autorité de sûreté indépendante.
Le seul incident, c'est Tchernobyl.
Qui dit que le risque zéro n'existe pas. Il y a une possibilité.
Mais c'est vrai pour toute
énergie que le risque zéro n'existe pas. Est-ce que c'est dangereux? Pascal nous dit que c'est pas dangereux. On en a des centrales en France. C'est dangereux, c'est pas dangereux?
Alors, ce que je voulais vous expliquer, il y a un argument qu'on entend très peu, c'est que l'impact d'un accident nucléaire et le risque existe, il serait surtout économique. Alors, il y a une étude passionnante que je vous conseille de lire de l'Institut de sûreté nucléaire. Donc, des impacts en cas d'accident en France. À Fukushima, vous savez, on a gelé pour des centaines d'années une zone de 30 km autour des réacteurs. La France, c'est un pays qui a une très forte densité de population. Imaginez un accident nucléaire en France, il faut déménager tout le monde, les maisons, les industries, l'agriculture. La France, c'est un pays qui vit du tourisme et de ses exportations agroalimentaires. Si on a un accident nucléaire, est-ce que vous voyez un Chinois ou un Américain acheter du vin français ou venir en vacances chez nous? Les conséquences économiques seraient absolument désastreuses et le risque zéro n'existe pas en matière de nucléaire.
Bon, on est d'accord que
alors,
du nucléaire...
Alors, faut fermer les 56 centrales. Si je vous écoute, on ferme les 56 centrales.
Mais
vous avez raison.
Pas s'en passer.
Non, mais vous avez raison, le risque zéro n'existe pas. Mais alors, je ferme les 56 centrales à l'instant.
Alors, il y a des gens qui le proposent. Après, on peut discuter
aussi. C'est
très
marginal, il faut le dire.
Mais vous avez raison, le risque zéro n'existe pas.
Absolument,
de ce point de vue-là, on est tous d'accord.
Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut continuer à faire du nucléaire ou est-ce qu'il n'y a pas des énergies qui sont un peu plus sûres qu'on pourrait développer?
La réponse est non, et vous le savez comme moi.
Alors, Pascal, est-ce qu'il faudrait arrêter de voir le monde en noir et blanc tout le temps? Pourquoi 100% nucléaire? Pourquoi ne pas imaginer qu'on puisse faire un mix, ce qu'on appelle le mix énergétique? De toute façon, que vous le vouliez ou non, la part du nucléaire en France va se réduire mécaniquement. Vous savez que nos centrales sont en train de vieillir. Même si on les prolonge, on n'arrivera pas à construire suffisamment de réacteurs à temps. Donc là, on a 15 ans, il va falloir faire quelque chose. Comment on va compenser cette baisse du nucléaire parce qu'elle va, elle va être effective? Soit on fait du charbon comme les Allemands, mais on a décidé de fermer nos centrales à charbon. Donc il faut absolument quand même développer les énergies renouvelables. Ça s'appelle le mix énergétique. Un peu de tout, sans être manichéen en permanence.
Bah, écoutez, on s'arrête sur ça?
Non, s'arrête. Non, mais les éoliens, c'est un drame. C'est un drame pour le paysage, ben si.
C'est vrai qu'une centrale nucléaire. Je vous conseille d'aller à Flamanville regarder depuis la colline face à la mer.
Mais il y en a 56. Mais je vous dis pas que c'est joli. Il y en a que 56. Des éoliens, il y en a partout. Vous êtes en train de détruire le paysage français. C'est horrible. Donc moi je vous donne
vous,
une mauvaise
moche. Virginie,
moi,
je trouve pas,
non, mais vous,
moi, je trouve pas ça moche.
Virginie n'y est pour rien. Et en plus, c'est, et on met des sommes
oui,
folles.
Oui, mais Pascal, si vous
alors,
voulez
des sommes folles, non. Et des sommes folles. Vous disiez non, Virginie.
Ah bah, maintenant, l'énergie renouvelable est en train de devenir rentable, Pascal.
Non, mais les subventions
à
qu'on a données à l'éolien et au soleil.
C'est de l'investissement. Mais maintenant, elle est rentable. En 2050, un kilowattheure nucléaire coûtera deux fois plus cher qu'un kilowattheure qui vient de l'éolien.
Les débats ont en tout cas lieu. Les téléspectateurs, parce qu'ils nous regardent sur la vidéo, mais les auditeurs aussi peuvent trancher. Et puis après, ce débat qui est passionnant d'ailleurs.
Ah bon, on aura l'occasion d'y revenir.
On continue quand vous voulez.
Et comment argument avec les auditeurs? Vous pourrez d'ailleurs rester si vous le souhaitez avec les auditeurs. Moi j'ai dit mon point de vue, mais ce qui est intéressant c'est les auditeurs. Et je vous propose que Virginie reste peut-être dans le premier quart d'heure. Et ça sera intéressant. Deuxième débat, le cumul des mandats.
Non cumul plutôt.
Oui, le non-cumul des mandats. A tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50 centimes.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Faut-il qu'un parlementaire cumule les fonctions pour être plus efficace? Le débat est rouvert. Des sénateurs affirment que sans leurs mandats locaux, ils sont coupés du terrain.
On a vu que ce qui faisait aujourd'hui défaut, c'est ce manque d'ancrage territorial des parlementaires qui votent des mesures sans savoir concrètement comment est-ce qu'elles vont s'appliquer parce qu'ils n'ont jamais été élus locaux.
Si j'ai des compétences.
C'est l'une des réformes phares du quinquennat de François Hollande. La voilà aujourd'hui contestée. Le Sénat examine aujourd'hui une proposition de loi pour revenir sur la règle du non-cumul des mandats. Bonjour Hervé Marseille.
Bonjour.
Vous êtes le président du groupe Union Centriste au Sénat. C'est vous qui avez préparé cette proposition de loi. Vous proposez en fait de rétablir ce qu'on a connu par le passé, les députés-maires, les sénateurs-maires, c'est ça ?
Oui, mais modestement, uniquement pour les exécutifs des villes de moins de 10 000 habitants. Mais ça représente quand même 97%
des
communes de France.
C'est quoi votre argument ? Pourquoi ça ne fonctionne pas, d'après vous, ce non-cumul des mandats ?
Bah écoutez, si vous relisez le texte de M. Hollande et des socialistes en 2014, on nous expliquait qu'il fallait que les parlementaires puissent totalement travailler au Parlement, puisque la révision constitutionnelle de 2008 avait donné tellement de pouvoir au Parlement que les parlementaires ne pouvaient rien faire d'autre que d'être à l'Assemblée ou au Sénat. Bah, force est de constater qu'aujourd'hui, le Parlement il a deux fois moins de pouvoir qu'en 2014. Et donc, vous avez notamment à l'Assemblée des députés hors sol qui n'ont pas eu l'expérience locale, qui sont coupés du terrain pour beaucoup d'entre eux. Et donc, je crois qu'il est important qu'on recrée un lien entre les parlementaires et les territoires.
Je voulais vous faire écouter Marie Lebec, qui est députée LREM des Yvelines, et elle réagit justement à ça. Écoutez.
Non, moi j'ai pas l'impression d'être hors sol du tout. On est trois jours par semaine à l'Assemblée nationale, le reste du temps on est dans notre circonscription. Je crois que c'est un peu une espèce de lubie de sénateur de droite que d'expliquer qu'on est déconnecté du terrain, alors même que moi à titre personnel, mais aussi l'ensemble de mes collègues, on est présents quatre jours par semaine dans notre circonscription au contact des élus, des acteurs économiques et des acteurs associatifs.
Une lubie de sénateurs de droite, dit Marie Lebec, députée LREM. C'est vrai que normalement, les parlementaires sont censés passer du temps dans leur circonscription, non ?
Oui, mais quand vous n'avez pas de mandat exécutif local, vous n'êtes pas enraciné dans le terrain. D'ailleurs, Madame Lebec, on verra ce que ça donnera aux prochaines législatives. Hein. On a déjà vu au municipal, au départemental et au régional que les candidats de La République En Marche n'étaient pas ceux qui étaient les plus prometteurs. Donc il n'y a pas d'ancrage territorial. Je crois que si on veut profiter de la proximité de l'élu local et pouvoir répercuter les préoccupations de nos concitoyens au Parlement, il faut pouvoir permettre ce petit cumul, si je puis dire, dans des villes modestes.
Mais on pourrait pousser d'ailleurs le raisonnement, vous ne le faites pas pour les grandes villes, ce qui est assez étonnant, parce qu'on pourrait imaginer que ça s'applique également aux grandes villes. Et on peut également remarquer que depuis cette loi du non-cumul des mandats, il semble que les maires aient pris le pas sur les députés et que l'Assemblée nationale soit très affaiblie.
Oui, parfaitement, vous avez totalement raison. D'ailleurs, il y a une hypocrisie puisqu'ils font du cumul horizontal, c'est-à-dire qu'un maire est à la fois maire au département, à la région, président de l'hôpital, de l'office HLM, etc., etc. Et donc, c'est une hypocrisie d'empêcher les élus d'avoir plusieurs responsabilités.
En fait, moi j'ai l'impression, pour parler avec beaucoup d'hommes politiques off, qu'il y a un consensus là-dessus, mais qu'ils n'osent pas le dire pour des raisons de pure démagogie, parce qu'il y a aussi, quand on accumule des mandats, c'est peut-être cumule également des indemnités.
Alors là, vous proposez de plafonner les indemnités, hein, M. Marseille.
Oui, mais je ne suis pas sûr non plus que ce soit une bonne chose, parce que je ne suis pas sûr que les hommes politiques soient assez payés dans ce pays, et c'est peut-être un problème. Mais dire ça, M. Marseille, c'est aussi entrer...
Bah oui. C'est vrai.
Oui, mais vous manquez c'est peut-être vrai. De courage, les hommes politiques, de ce point de vue-là. Vous n'osez pas dire que vous n'êtes pas assez payé.
Bah, écoutez, c'est une vérité. D'ailleurs, il y a de moins en moins de personnes de qualité qui veulent s'engager. Bah
exactement, et ça peut être un problème majeur des prochaines années.
Absolument, absolument.
Mais il faut avoir le courage peut-être de le dire.
Mais aujourd'hui, les mandats sont plafonnés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tous les mandats que vous voulez. Vous ne pouvez pas avoir plus d'une certaine somme
exactement.
D'argent
public. Exactement, c'est 6 ou 7 voilà. 000 euros, je crois.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Bah, c'est vrai que c'est une somme importante, certes, mais pour quelqu'un qui
vient
parfois,
du privé,
il sera peut-être mieux payé dans une entreprise privée que celle-là.
Oui, et puis en plus, vous avez moins de densité, comme vous l'avez dit, à l'Assemblée, et donc vous n'avez pas, face à l'exécutif, des gens qui représentent véritablement des territoires, puisqu'ils ont eu des investitures, ils représentent la majorité. Et il n'y a plus le maire de Lyon, le maire de Marseille, etc., qui pouvait peser face à l'exécutif.
Exactement, exactement. Vous avez parfaitement raison. Mais ce n'est pas très populaire et de le dire comme vous l'avez dit. Merci, monsieur Marseille.
Merci beaucoup.
Et 12h59, vous avez remarqué qu'on est tous les jours en retard.
Oui, tous les jours. Parce que j'aime bien rester avec vous, c'est pour ça.
Ça, je vous comprends. Quoi, je vous comprends, j'en sais rien d'ailleurs. Mais à 12h, on va donc marquer une pause. Le rappel des titres, les auditeurs. Virginie Garin sera là. Vous avez vu, c'était assez musclé notre débat. Mais c'est ça qui est intéressant. Et vous pourrez
lui
poser. Bah, du coup, elle revient parce qu'elle est pleine d'énergie, nucléaire ou pas. Et elle va pouvoir dialoguer avec les auditeurs. À tout de suite.
RTL Midi.